Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, le plus rebelle des radios, le Canu Info du 15 avril 2013 avec Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex téléphonique. Tu es là ?
Je suis là.
Oui, oh, on t'entend parfaitement. Alors, 15 avril 2013, on va peut-être évoquer l'événement du jour, qui sont les résultats des élections. Enfin, résultat, c'est peut-être déjà un grand mot que de le dire, au Venezuela, puisque finalement, la victoire n'a pas été aussi large qu'elle était espérée. Elle est râlée pâquerette au point que le challenger de chaviste réclame la victoire pour lui aussi, voire un recomptage des voix ou des choses comme ça. Bref, il y a un petit peu de confusion et une déstabilisation. Alors, pourquoi on peut analyser, hein. On n'y était pas, mais on sait très bien comment procède les puissances d'argent quand elles veulent battre des candidats qui sont réellement socialistes, suivez mon regard, avec un peu de compromission, avec de l'argent versé ici et là. Bref, Capriles, dans un pays où pourtant la population a largement bénéficié de la politique sociale de Chavez, arrive presque à 50% des voix. Quelques 230 000, paraît-il, actuellement voix près. C'est un score serré qui constitue une petite déception, mais qui n'empêchera peut-être, et sans doute pas Maduro, de gouverner dans l'esprit progressiste qui était celui de Chavez. Tu passes la parole ?
Oui, effectivement, c'est une période incontestablement de déstabilisation, dans lequel va entrer le Venezuela, et au-delà du Venezuela, tous les régimes progressistes du continent latino-américain, amérindien, parce que, effectivement, ce succès est très faible. Il est surprenant, surtout par le fait que encore il y a 48 heures ou 24 heures, les sondages donnaient un écart d'une dizaine de points entre les deux candidats. Une dizaine de points, ça veut dire du 55-45. Et même si on remonte tout de suite au début de la campagne, c'était même 15 ou 20 points qui apparaissaient dans les sondages. Alors, pourquoi les sondeurs se sont aussi largement trompés ? Est-ce que ça fait partie de la manipulation ? C'est probable, parce que tous les outils de communication, y compris donc radio et télé, sont entre les mains, enfin tout ce qui est la communication, c'est vraiment entre les mains du privé, hostile au mouvement révolutionnaire vénézuélien. Et il est tout à fait pensable que, effectivement, en servant ce type de sondage, alors on n'a pas les chiffres des je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils sont pas donnés, les chiffres des exprimés sur les 19 millions d'inscrits. On a cru comprendre à travers des chiffres qui ont été donnés que chacun des candidats était autour de 7,5 millions. Donc 2 fois 7,5 millions, ça fait 15 millions sur 19 millions. Bon, ça fait quand même effectivement ce qu'on disait précédemment, c'est entre 70 et 80% d'exprimés. Mais pour l'instant, le chiffre n'a pas été donné. Et par exemple, les sondages sortis des urnes sont restés, n'ont pas été communiqués non plus. Tout ça, on le dit, c'est parce que, effectivement, la droite détient la grande majorité des moyens de communication et moyens d'expression, que ce soit la presse écrite, que ce soit les télévisions. Il y a bien la télévision d'État, mais elle pèse pas lourd par rapport aux grands lobbies qui effectivement couvrent, ont couvert cette campagne. En plus, en déformant complètement la situation, c'est-à-dire que dans le programme de Capriles apparaissait un certain nombre de choses qui ont été pompées dans le programme de Maduro, par exemple sur les bas salaires, sur ce qu'on pourrait appeler l'équivalent du SMIC. Ici en Europe, en France notamment, et plein de choses comme ça où la droite a singé, mais pas pour s'en moquer, elle a singé la gauche et Maduro et le bolivarisme uniquement pour essayer de semer le trouble et puis donner l'impression que finalement, peut-être à des gens qui disent bon, Chavez c'était Chavez n'est plus là, finalement il a suffisamment marqué le paysage politique pour que, y compris les adversaires au chavisme, soient obligés d'en tenir compte quoi qu'il se passe. Enfin, il y a visiblement des choses dans cet ordre-là qui seront sans doute à décanter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.
Voilà, autre sujet d'actualité un peu brûlante qui fait celle du jour, c'est la Corée du Nord qui honore l'anniversaire de la naissance de son fondateur. Alors tout le monde pensait, compte tenu de leur gesticulation précédente, qu'ils allaient aujourd'hui en profiter pour lancer un missile ou quelque chose. Apparemment, ils font la parade dans les rues, mais ils n'ont pas fait plus à l'heure qu'il est, quoi. Alors, s'agit-il d'une intoxication de la part des Occidentaux, les Américains en particulier, puisqu'ils se sont déployés militairement avec un certain nombre d'armes qui n'ont rien de sympathique tout autour de la Corée, ce qui entraîne des réactions, bien sûr, des Chinois qui jusque-là soutiennent inconditionnellement la Corée du Nord, mais qui sont peut-être un petit peu gênés de voir une telle armada américaine si près de chez eux. Kerry était au Japon aussi puisque le Japon a été équipé par les soins des Américains de missiles antimissiles, enfin de boucliers au cas où effectivement Kim Jong-un souhaiterait balancer ce qu'il a promis, des bombes sur le Japon. Bref, peut-être que tout ça va se calmer un peu, mais ça a tenu l'actualité internationale en émoi depuis une petite semaine, quoi.
Oui.
Voilà. Faut-il en dire plus là-dessus ? Ben non, on a pas mal de sujets à traiter. Peut-être tu veux aborder autre chose du côté du Moyen-Orient ?
Oui, simplement, c'est cette affaire du nucléaire coréen, comme d'ailleurs l'affaire du nucléaire iranien, d'ailleurs, entre parenthèses, les Iraniens viennent de réaffirmer une fois de plus que la bombe, ça ne les intéressait pas, ils n'ont pas envie de la bombe atomique. Mais ce qui est en cause, c'est finalement le traité de non-prolifération atomique, qui est un traité imposé par ceux qui détiennent l'arme nucléaire à ceux qui ne la détiennent pas encore, qui auraient des velléités de vouloir la détenir. Et c'est quelque chose, effectivement, en droit international, c'est extraordinaire que un tel traité puisse trouver sa place dans les rapports internationaux. Et donc, ce genre de situation, c'est déjà produite par le passé. Elle va encore se produire aussi longtemps que les puissances nucléaires n'ont pas entamé un véritable désarmement qui donnerait une certaine validité à ce traité.
Oui, on a beaucoup à dire sur ce traité. Oui, on disait donc Moyen-Orient entre la Palestine avec la démission de Salem Fayyad, donc après 6 ans de gouvernement, sur fond de désaccord avec Mahmoud Abbas, mais plus profondément sur l'impossibilité dans laquelle il se trouve de constituer un État sur des bases normales, on va dire. Et ça finit par coincer avec Abbas, qui est surtout préoccupé, lui, par les rapports de force politique dans le pays. Il se trouve que Fayyad est un ancien haut fonctionnaire de la finance mondiale et que les bailleurs américains appréciaient assez son œuvre et son comportement. Alors, sa démission va-t-elle changer quelque chose dans les rapports entre la Palestine qui, bien que constitué d'un semblant d'État à l'ONU, n'a toujours pas un État vraiment reconnu sur le terrain. Et c'est une question qu'on peut se poser ce soir.
Et reste parallèlement posée la question de, on va dire, de l'unification, au moins politique, à défaut d'être territoriale, l'unification des deux Palestines. La Palestine de Cisjordanie, dont il faut rappeler qu'elle est un territoire occupé, sous contrôle israélien, la Cisjordanie, et la partie Gaza, qui est indépendante et qui, effectivement, est administrée par le mouvement Hamas, qui, effectivement, a un certain nombre de divergences fortes avec Abbas et les Palestiniens de Cisjordanie.
Qui est moins occupé, mais qui est sérieusement encerclé par les Israéliens.
En plus, oui. Oui, voilà, c'est une, comment on l'appelle, une prison à ciel ouvert. Donc, là où, bon, il y avait des discussions pour organiser des élections, parce que finalement, si on se base sur le formalisme, la légitimité d'Abbas, elle n'était pas plus importante ou plus consistante que celle de son premier ministre, parce que ils sont les uns et les autres dans l'impossibilité d'organiser des élections. Ils voudraient, Abbas voudrait, confirmer cette reconnaissance internationale, il faudrait qu'effectivement ils puissent s'organiser des élections auxquelles participeraient les deux Palestines. Bon, pour l'instant, les pourparlers entre les deux ne sont pas rompus, mais ça n'avance pas beaucoup, parce que tout simplement, eh bien, chaque fois que ça pourrait avancer, il se trouve toujours qu'une provocation survient et que, à la provocation souvent israélienne, répondent des groupes plus ou moins contrôlés par le Hamas. Et puis voilà, ça embrase le secteur et ça coupe court à toutes les discussions, à tous les pourparlers, aussi bien internes aux Palestiniens qu'avec la communauté internationale. Et tout de suite, l'Occident, avec en tête les États-Unis, font tout de suite front avec derrière Israël pour bloquer tous les processus engagés. Et c'est bien la situation d'aujourd'hui qui prédomine. Alors, est-ce que, en fait, Abbas va peut-être reconduire le premier ministre sortant, ou peut-être en trouvera-t-il un autre, mais c'est une réponse tout à fait insatisfaisante, mais non pas de la faute des Palestiniens, mais de la faute des Occidentaux, à commencer par la faute américaine.
Voilà, alors pas loin de là, mais il y a la Syrie, bien sûr, où le conflit continue. Alors, un certain nombre d'événements ces derniers jours, des tirs sur le Liban par des obus depuis la Syrie, 2 morts, 2 blessés. On ne sait pas qui a tiré. Et l'armée syrienne qui prend un peu le dessus dans certains coins en faisant sauter le siège de 2 de ses camps militaires, qui prend aussi une initiative en zone kurde qui est bombardée, qui jusque-là avait été relativement épargnée, mais la prise de position des Kurdes anti-Bachar el-Assad a incité l'armée à agir de ce côté-là. la question des armes chimiques, dont il s'avère de plus en plus clairement, si on en croit certains experts sur le terrain, qu'elles ont bien été utilisées. Alors, certains disent, mais oui, mais par qui, on ne sait pas le dire, quoi. Et en tous les cas, les Occidentaux, qui en avaient fait une ligne rouge à ne pas franchir, regardent de gauche et de droite, sans trop se fixer sur la ligne rouge. Maintenant que l'on a établi, alors, les islamistes qui, dont le mouvement s'était déclaré inféodé à Al-Qaïda, ont un petit peu pris du champ et se sont dégagés partiellement en disant que pas du tout, ils œuvraient pour leur propre compte. Mais c'est vrai que ça a créé un malaise et que, comme depuis le début, les Occidentaux ont beaucoup de mal à prendre une position, que ce soit pour un camp ou pour l'autre, face à une population syrienne qui dit « mais nous, on était opprimés et on veut se libérer ». Une partie des combattants qui disent « nous, on veut mettre en place un État islamique ». Et puis Bachar el-Assad qui dit « moi, je représente la légalité du pays dans une optique laïque ». Et donc l'imbroglio reste complet, et que ce soit les Américains, les Anglais, les Français, même s'ils suivent ça de près, et d'autres pays, personne ne prend clairement une position ni politique ni militaire, quoi, alors qu'il est.
Oui, c'est toujours finalement cette contradiction dans laquelle se trouvent les Occidentaux, et notamment la France, qui s'est engagée la première avec son armée au Mali pour déloger, voire anéantir le djihadisme, qui était en train d'essayer de se créer une entité territoriale là-bas. Et qui en même temps, eh bien, quand il veut soutenir la rébellion face à Bachar, eh bien, elle sait que une partie de cette rébellion et même sa force de frappe la plus forte est sous le contrôle de gens proches, d'ailleurs c'est maintenant de notoriété, proches des djihadistes, et donc contradiction totale dans ce comportement. Alors c'est comme tu l'expliques, l'impossibilité actuellement de faire quoi que ce soit, sinon tenter pour la énième fois de mettre en application les accords du Caire, qui essayaient d'envisager une négociation politique dans laquelle il y aurait tout le monde. Mais il est évident que les djihadistes n'iront pas à cette négociation politique, et que du coup le conseil de la Syrie libre sera effectivement peut y aller, mais il sera dit qu'il n'est pas représentatif de la rébellion.
Voilà, à suivre donc, bien sûr, on est loin de la fin de ce conflit. Autre sujet que tu avais envie de traiter dans l'Afrique ou...
J'avais vu, et puis en lisant les informations, mais ça a été depuis pas démenti, mais rapporté à quelque chose de plus simple. On avait dans un premier temps annoncé la libération de Moubarak par une décision du tribunal. Alors on savait que pour des raisons de procédure, ça existe dans tous les tribunaux, mais là, visiblement les avocats et tous les complices de Moubarak à l'intérieur de la justice, il en existe encore beaucoup, avaient juridiquement bien travaillé leur dossier, puisque finalement ils étaient arrivés à prouver qu'il y avait des défauts dans le comportement de la justice, et que ça devait conduire à la libération de Moubarak. Alors on avait annoncé sa libération conditionnelle, donc et puis un peu plus tard j'ai lu que en fait non, pour l'instant il n'est pas libéré, et que il y a des procédures pour empêcher cette libération. Alors ce qui est curieux, c'est que ce personnage qu'on nous a toujours présenté comme mourant à la dernière extrémité, agonisant sur une civière dans les tribunaux, et bien finalement, visiblement, ou bien il ne sert qu'effectivement aux manipulations des autres, mais en fait, il est lui-même sans doute pas aussi moribond qu'on veut bien le laisser entendre.
Voilà. Alors, quelques mots du Mali. Oui, les Tchadiens, les militaires tchadiens ont annoncé qu'ils quittaient le Mali, qu'ils enlevaient les forces qu'ils avaient mises en place, tout en étant prêts, paraît-il, à les ramener, mais sous un mandat de l'ONU, quoi, en tant que force de l'ONU. Les Français, quant à eux, font semblant de partir, c'est-à-dire qu'ils ont rapatrié une centaine de militaires, mais enfin, le gros des troupes, comme on le dit, reste encore sur place pour le moment. Je pense que certains parlent d'une opération de communication, que ces retraits partiels dans un pays où la situation est loin d'être stabilisée, même si le front des islamistes qui, à un moment, a tenu tout le nord du pays, s'est maintenant sérieusement replié dans l'arrière-pays montagneux. Mais peut-être qu'ils attendent que les gens efficaces avec leur armement sophistiqué s'en aillent pour revenir à la charge et s'en prendre aux forces régulières maliennes qui sont beaucoup moins aguerries.
Et oui, c'est vrai que la surveillance par les airs permet effectivement à l'armée française et avec l'appui des Tchadiens et des Maliens eux-mêmes de l'armée de les tenir à distance.
La surveillance et le canardage, hein, t'es gentil.
Oui, le canardage, quand ils les trouvent, mais maintenant, quand ils arrivent, ils sont déjà partis. Alors c'est assez curieux, d'ailleurs, on a lu que finalement, dans ce massif montagneux, là, à proximité de Gao, ils ont découvert effectivement un arsenal important à tout point de vue, c'est-à-dire aussi bien pour l'intendance que pour l'armement, mais plus personne, ils étaient tous partis. Alors personne ne les a vus partir. Donc là, s'ils ont pu partir, ils peuvent revenir. Ça, là-dessus, l'opération qu'on avait montée à grand renfort de publicité en disant que c'était vraiment une énorme opération qui allait finir par de nettoyer le secteur, mais en fait, on n'en parle plus de cette opération. Donc, elle a dû se traduire par plutôt un échec sur le plan d'avoir neutralisé l'adversaire. Mais enfin, bon, on l'a dit ici plusieurs fois, on n'est pas sûr que cette guerre corresponde bien aux intérêts bien compris de la démocratie dans toute cette région. À propos d'ailleurs, on peut faire évoqué, mais tu allais peut-être le faire, Centrafrique, où finalement les choses ne se passent pas aussi bien qu'on avait cru le comprendre lorsque le mouvement rebelle s'est emparé du pouvoir, a installé ses hommes, son chef militaire à la présidence. Maintenant, c'est fait depuis 2-3 jours. Et il semble qu'il y a des groupes de résistants. Alors, il semblerait que, en fait, certaines factions de l'ancien pouvoir autour de Boniza qui ne veulent pas rendre les armes qu'ils détiennent et notamment ne veulent pas livrer les casernes qu'ils occupent à ce qui est maintenant la nouvelle entité politique de Centrafrique. Et ça a provoqué des affrontements avec, semble-t-il, quelques dizaines de morts.
Oui. C'est un moment où le Rotodja, là, c'est après avoir fait des grandes déclarations de démocratie tout azimut, vient de s'autoproclamer président sans passer par la case élection.
Il est passé par un conseil dont il était d'ailleurs lui-même le créateur, un conseil qui réunit 70 ou 80 personnes. Qui l'ont voté, on peut penser à l'unanimité, mais qui comporte effectivement un certain nombre des équipes qui étaient les équipes de l'ancien président déchu.
Voilà, une petite rubrique européenne avant de faire une pause musicale. la Croatie qui s'apprête à entrer dans l'Europe le 1er juillet, ce sera le 28e pays, ou 29, je ne sais plus. Donc, aujourd'hui, il y avait vote pour élire, dans la perspective de cette entrée dans l'Europe, vote pour élire des députés européens. On ne peut pas dire que ça a mobilisé les foules. On s'attendait à 20-30% de participation. Finalement, il y a eu 20, quoi. Donc, des gens ne semblent pas très impliqués dans ce projet européen, du moins dans l'élection de politique pour les représenter. Il faut dire que dans le pays, depuis quelques années, la confiance dans les élites a considérablement fondu, avec des différentes opérations de corruption et autres. Et en plus, donc, c'était une campagne tout à fait légère et sans impact médiatique important auprès de la population. Résultat, 20% de votants. Et quant aux élus, ben, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Peut-être c'est encore un peu tôt, quoi. Voilà, tu avais d'autres...
Oui, la Croatie, oui, c'est vrai qu'elle elle se considère un peu dans la région comme la puissance dominante par rapport à son rapport à l'Europe. Et comme dans les autres pays voisins de l'ancienne Yougoslavie, le courant, on va dire, le courant nationaliste, l'emporte assez largement, et il s'appuie sur des données qui sont imparables, à savoir que la filiation à l'Union européenne n'apporte pas grand-chose, sinon un peu plus de misère, et ouvre, même si elle ouvre les portes, par exemple, à l'immigration, c'est une immigration, finalement, qui n'apporte rien de plus. La Croatie, effectivement, il faut rappeler que, bon, effectivement, il y a 20 ou 30 ans, c'était le nœud des problèmes guerriers. Croatie, largement soutenue par l'Occident, effectivement, par l'Europe, se montre peu reconnaissante, effectivement, pour tout ce qui a été fait pour elle, pour cette Croatie, qui était appuyée plus sur l'histoire chrétienne que sur l'histoire musulmane. Et on savait que c'était un choix aussi dont il fallait on pensait qu'il avait joué un rôle dans les années 90.
Mmh. Voilà, on fait une pause musicale.
Oui.
Courte, avant de revenir à la rubrique nationale, elle est chargée aujourd'hui. On va la faire avec Jean-Guy Denis, tiens, qui sera à Lyon jeudi, vendredi, à tout bout de champ. Une chanson qui a un petit peu de retard, mais qui était bien emmenée, enfin, un extrait du moins, la grande expo de l'an 2000.
L'autre matin, je dis à ma bourgeoise, en lisant le guide Libération, paraîtrait que tout Paris pavoise pour fêter la grande exposition. L'expo de quoi qu'elle me demande, celle du nouveau siècle et de son tournant. Et je vois dans ses yeux bleus la vende, désir de s'y rendre un continent. On te laisse, bonne maman, gérer l'établissement. Enregistre la théma d'Arte, ça traite de l'insécurité. Évite les mots qui blesse, si les loups fauchent la caisse, tu peux bien te mettre à genoux, mais le pitbull on le prend avec nous. Frais et dispo, agitant nos drapeaux, nous allions à l'expo, moi et Thérèse. L'esprit radieux, nous lançons jusqu'aux cieux les accents mélodieux de la Marseillaise. Vite nous v'là à l'entrée de la foire, au milieu de la presse des arrivants. Et déjà s'inscrit dans notre mémoire la majesté de ton monument. Je veux voir la galerie du suicide, supplie ma Thérèse en haletant. Oui mais d'abord celle du génocide, mon amour dit j'en ai le temps. Il y aura de l'horreur, des cris et de la fureur, les saloperies que font les gens pour le plaisir, l'honneur ou l'argent. Et si t'as la nausée, on ira se reposer au jardin de la souffrance, du pavillon de l'intolérance. Fleur au chapeau, nous visitions l'expo sur un joyeux tempo à la française. ce siècle neuf. À moi et à ma meuf, produisez l'effet bœuf d'une vraie synthèse. On applaudit ces architectes, combattis pour toutes les abjections, pour les religions comme pour les sectes, le mensonge ou la prostitution. Quelle merveille l'esplanade de la haine, superbe la tour de l'infamie. Puis Thérèse a voulu que je l'emmène dans le hall de l'épidémie. C'est fou ce qu'ils ont construit, rien que pour entendre du bruit. Quant au palais de la laideur, faut dire que c'est une vraie splendeur. Séance de signature, maison de l'inculture, puis grand dîner de rigueur chez McDonald's et King Burger. Sans nul repos, les mois à fleur de peau.
Alors, Jean-Guy Denis pour l'interprétation, Pierre-Philippe, comme d'habitude, pour la musique dans cette chanson qui date un peu, puisque c'était la Grande Expo de l'an 2000. C'est une parodie, bien sûr, d'une vieille chanson française que vous avez peut-être reconnue. Canu Info de ce 15 avril 2013, la rubrique nationale, Jean-Pierre et Robert en duplex, pour évoquer différents sujets. Entre autres, on va faire une petite nécro, si on peut dire. 17 avril, c'est après-demain, on est le 15. Hein. 2008, c'était la disparition d'Aimé Césaire, donc ça fait 5 ans déjà. Et puis, beaucoup plus loin en arrière, 40 ans cette fois, LIP, le 17 avril, c'était le dépôt de bilan et le début d'une grande saga sur laquelle on vous donnera peut-être des infos au fil du temps, surtout la période, la première année de ce mouvement qui a été la plus riche, la plus spectaculaire, la plus autogestionnaire aussi, puisqu'à un moment donné, les LIP prendront la production en trésor de guerre, la vendront et se paieront au nez et à la barbe du patronat et du capital. Et ça, c'est pas très souvent que ça s'est produit dans l'histoire, donc il y a là une belle expérience sur laquelle on aura l'occasion de revenir.
Et ça s'est produit sous un gouvernement de droite. Alors aujourd'hui, avec un gouvernement de gauche, on ne peut pas reproduire ça et il paraît que c'est interdit.
Voilà, alors de quoi on parle? Le patrimoine. Ah le patrimoine, quel écran de fumée. Voilà une semaine qu'on nous amuse avec ça. On a eu un énorme scandale qui n'était pas un problème de patrimoine, hein. C'était un problème de dissimulation fiscale et de paradis fiscaux. Et sur quoi on a fait embrayer tous les médias depuis une semaine? Sur le patrimoine des élus. Mais on s'en fout du patrimoine des élus. Enfin, pas complètement. Quand il est acquis très illégalement, on peut quand même peut-être s'y intéresser un peu. Mais enfin, faire des entretiens, des émissions, des heures de tchatch là-dessus, et ce soir, ça va être pire, puisque là, ça y est, c'est la publication du palmarès, hein, du hit parade. Il est déjà disponible sur Internet, j'ai pas été voir. On s'en fout, par contre, ça sert à une chose, ça sert à nous faire oublier qu'on a clairement détecté qu'il y avait 43 milliards d'impôts par an qui échappaient au fisc par des grandes sociétés, et qu'avec ces 43 milliards-là, ça nous économiserait bien des mesures qu'on est en train de prendre pour serrer la vis des plus pauvres et des moins riches. Mais de ça, on ne parle plus, ou presque plus, et de la disparition des paradis fiscaux encore moins. Il est vrai que là, c'est un gros morceau, et que le pépère Hollande, comme on l'appelle maintenant, aura bien du mal à convaincre tout le monde en Europe et dans le monde à supprimer du jour au lendemain les paradis fiscaux. À défaut, on pourrait quand même obliger toutes les entreprises qui vendent quelque chose en France ou qui ont leur siège en France de déclarer toutes leurs filiales, toutes les activités, toutes les sommes qui traversent les filiales à travers les paradis fiscaux en général. Mais ça semble pas être la priorité. La priorité, c'était de nous enfumer avec une histoire de patrimoine. Et pour le moment, ça marche pas mal. Donc pendant ce temps-là, on nous parle d'augmentation d'impôts pour l'année prochaine, la TVA, plutôt que de nous parler de récupération des impôts auprès de ceux qui les détournent, comme Total, des grands groupes, qui font d'énormes bénéfices et qui vont les faire ailleurs pour les placer dans des paradis fiscaux. Allez, Robert, à toi un petit peu.
Oui, moi je parlerai plutôt des chants funèbres pour les hauts fourneaux, puisque c'est finalement aujourd'hui qu'a démarré, enfin ça avait déjà, c'était déjà depuis plusieurs jours, voire semaines dans l'air, les opérations qui vont constituer à mettre les hauts fourneaux de Florange en veilleuse, autrement dit, à les fermer. Bon, on n'ose pas dire le mot parce que ça fait désordre dans le paysage et ça ajoute au désarroi et à la colère des syndicats. Donc on dit qu'on va simplement les neutraliser pour l'instant, et comme si c'était des choses qu'on éteignait, qu'on rallumait quand on voulait. C'est un moment dramatique, effectivement, qui clôt 30 ans d'errance autour d'une des industries importantes, qui est l'industrie de l'acier. Alors, on peut discuter en termes de à quoi sert l'acier. Est-ce que c'est pour le bien des hommes, de l'humanité?
Il sert à faire des vélos. Hein.
Par exemple, oui. Bon, c'est vrai qu'on a d'autres matériaux que l'acier, mais en fait, l'acier reste quelque chose qui participe actuellement, qu'on le veuille ou non, au développement du mieux-être, on ne va pas dire du bien-être, mais du mieux-être des habitants, et pas seulement de France, ni d'Europe, mais de la planète. Donc cette bataille autour de l'acier, elle se clôt aujourd'hui avec effectivement un grand gagnant, c'est Monsieur Mittal, qui finalement a réussi à imposer tout ce qu'il souhaitait faire. Et là, on évoquait l'IP, alors je ne sais pas si effectivement il aurait été possible de produire, certainement, oui, ils savent faire les sidérurgies, produire, vendre, alors là c'était petit plus compliqué, et puis se payer avec l'argent. Bon, non, on va pas effectivement faire des rapprochements qui sont difficiles, et il y a d'autres secteurs qui sont en panne sur le plan économique, et où effectivement des solutions avec prise en main de l'outil par les travailleurs sous des formes de coopératives ou avec effectivement une tutelle de l'État, s'agissant par exemple de l'acier, mais ça peut être vrai également pour l'automobile, de PSA, tout ça, mais laisser effectivement partout où la casse se perpétue, donner par une loi, si vraiment on veut être ultra-légaliste, mais on pourra de toute façon faire la loi après. On laisse les travailleurs s'emparer des outils, et après, la loi suivra d'ailleurs. C'est ce qui avait été dit, on se souvient, quand il y avait pour l'IP, et à l'époque c'était même Edmond Maire, hein, qui n'avait pas encore complètement changé son attitude, et qui disait, mais il y a la légitimité et il y a la légalité. La légitimité, c'est effectivement de faire que toutes les entreprises qui sont en difficulté, tous les plans sociaux et au-delà, peut-être il faut commencer à voir autrement l'organisation de la société. Tout ceci qui est légitime, eh bien ça sera légalisé ensuite. Mais il ne faut pas d'abord commencer par pondre une loi pour ensuite... bon, on sait bien que ça ne marchera pas, que c'est fait pour enterrer la spontanéité et la volonté de lutte des travailleurs. Et c'est un peu dans ce même climat qu'il faut analyser la suite du débat sur l'accord national interprofessionnel, dont le passage à l'Assemblée nationale s'est conclu par un vote minoritaire. Bon, la droite n'a même pas osé soutenir le patronat, ce qui est assez extraordinaire, alors qu'elle est de plein pied avec ce texte-là, mais peut-être qu'elle pensait que ça faisait un peu désordre dans le paysage. une soixantaine de socialistes se sont abstenus, quelques-uns ont voté contre, les Verts se sont abstenus, le Front de Gauche a voté contre, ce qui fait qu'à l'Assemblée, il n'y a guère que 250 sur 577 députés qui ont approuvé l'ANI. Voilà, donc un vote tout à fait minoritaire. À partir de mercredi, le débat sur l'ANI va démarrer au Sénat. Et ça va être un peu plus dur parce que les rapports de force au Sénat sont différents. Et on rappellera simplement que l'ANI, c'est, on va dire, la flexibilité est tous azimuts et non pas la sécurité dans le travail. On ne va pas rappeler, on aura l'occasion de le faire. La flexibilité, c'est-à-dire finalement... c'est le patron qui décide effectivement comment il doit se comporter en fonction de son cahier de commandes. Puis en fait, cahier de commandes, ça ne veut rien dire parce que la plupart des sociétés, même les petites unités de production, les petites usines ou les petits ateliers, eux-mêmes sont souvent maintenant pris dans un système internationalisé qui fait que on peut facilement faire apparaître qu'une boîte est en déficit simplement par des transferts, et ça rejoignait également ce qu'on disait tout à l'heure sur les paradis fiscaux. Voilà, donc double situation déplorable, surtout quand c'est la gauche qui est au pouvoir, savoir cette poursuite du démantèlement économique, et puis aussi sa concrétisation par une loi qui légitime le démantèlement.
Voilà, et on voit autant le pouvoir a du mal à statuer sur certaines choses et lentement, autant on le voit là faire la course à l'échalote, le gouvernement, avec l'affaire du mariage gay, puisque mercredi, tout devrait être plié. Alors les autres sont un peu pris de vitesse et braillent comme des malades et continuent d'organiser des manifs alors que la loi sera votée. Il y en a eu pas mal cette semaine, il y a eu certains incidents, il y a eu aussi des manifs à Lyon. On a vraiment l'impression d'une instrumentalisation. Les gens qui manifestent contre ne sont peut-être pas vraiment contre le mariage gay, mais ils sont sûrement contre la gauche et tout ce qui peut nuire ou faire problème à la gauche ou au gouvernement est une bonne affaire pour eux. Alors on a vu comme ça, bien sûr, les groupuscules d'extrême droite servir de force d'appoint et même de force de pointe dans ces manifestations. Voilà, faut-il en dire plus? Donc les choses, le texte a été avancé de 6 semaines pour son vote au Parlement et ça passe sans problème. Enfin, ça faisait partie des engagements du gouvernement. On aimerait juste qu'ils soient tous tenus avec autant de rigueur et de rapidité que celui-là pour faire avancer les problèmes sociaux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a plein de sujets. Alors, les gens d'Aulnay, PSA, dans le domaine économique, se sont invités au Conseil national du PS. Ils n'avaient pas eu d'invitation, mais ils sont un petit peu rentrés. Alors, pendant qu'ils entraient par une porte, le courageux héros se sauvait par une autre. Ils sont restés là au milieu, Hamon, Moscovici et Harlem Désir, qui ont négocié un petit peu les choses avec... les gens qui étaient là, une cinquantaine, qui n'étaient pas si vindicatifs que ça, qui voulaient juste exprimer quelques vérités bien senties, ce qu'ils ont pu faire donc devant le Conseil national du PS. C'était samedi après-midi à Paris, à la Villette. Voilà, d'autres infos, Robert, que tu voulais évoquer?
Signaler l'action des faucheurs volontaires et plus largement des syndicalistes paysans, notamment ceux de la Confédération paysanne, qui ont occupé à Trèbes, dans l'Aude, le site productif Monsanto pour vérifier, d'ailleurs ils sont à peu près persuadés du résultat, vérifier qu'il n'y avait pas dans les silos du transgénique 810. Alors évidemment, ça C'est plusieurs groupes qui se sont installés sur le site. La police est là. Aujourd'hui, il n'y avait pas eu de d'ordre encore de les chasser. Néanmoins, c'était une action effectivement qu'il faut rappeler parce que le Monsanto 810 est partiellement autorisé par la communauté européenne, mais 8 pays sur 27 pour l'instant le refusent, et parmi ces pays, pas les moindres, puisqu'il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Pologne, il y a l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, et puis je crois il y a le Luxembourg, Chypre, bon, qui pour l'instant donc refusent effectivement d'admettre le transgénique Monsanto dans leur culture. Et c'est pour ce travail d'explication et de rappel à l'ordre du gouvernement qui, finalement, on avait compris que certains tergiversaient, commençaient à penser que peut-être il fallait revenir sur cette interdiction en France.
Les lobbies les aident largement et continuent leur travail de toutes sortes de manières. Quelques mots sur l'abandon par le Conseil constitutionnel, rien de moins, du bonus-malus électricité, qui voulait faire payer plus cher l'électricité à ceux qui en consommaient beaucoup. Bon, ça peut paraître intéressant comme ça, mais quand on regarde de près, ceux qui en consomment beaucoup sont souvent et parfois ceux qui sont obligés d'en consommer beaucoup parce qu'ils ont des logements mal isolés et qui ne peuvent pas se geler tout l'hiver pour autant. Donc du coup, c'était encore un moyen qui allait faire payer un certain nombre de gens les moins riches l'électricité plus chère que les Rupins qui ont pu se faire des bâtiments assez à la mode. Tiens, vous avez peut-être vu la revue du Grand Lyon là qui est parue récemment et qui il y a 50 pages de boboïsme là-dedans quoi. Tout l'avenir de Lyon est dans des trucs bobos. Alors il y a les bâtiments à énergie positive, il y a des tas de, excusez-moi le mot, de conneries comme ça qui concernent pas le travailleur de base et le chômeur encore moins. Mais donc ces gens-là effectivement vont pas consommer beaucoup d'électricité si le bâtiment en produit plus qu'il n'en consomme. Donc cette mesure est quand même saluée par les défenseurs des plus démunis. Et puis on dira un mot du Mediator aussi, qui au début on nous a annoncé 200 à 300 décès dans le pire des cas. Aujourd'hui, à terme, on annonce 1300 à 1800 décès. Donc le fait de Servier qui a dissimulé la dangerosité du produit de 98 à 2003, donc de 15 ans à 10 ans d'ici. Pourquoi ? Parce que c'était un bon médicament qui rendait des services ? Pas du tout, parce que c'était un produit qui rapportait beaucoup d'argent. On le filait à toutes celles qui voulaient grossir au titre-là, alors qu'officiellement le médicament n'était pas fait pour ça. Enfin, on connaît le scandale maintenant. Par contre, ce qu'on apprend maintenant, c'est que le nombre de décès qu'il engendrera sera bien supérieur à celui qu'on avait estimé au départ. Il a 91 ans, Servier, alors il s'en fout un peu. Donc il voit ça avec bonhomie, mais il a des héritiers et des collaborateurs, et il serait quand même temps qu'une justice passe sur une affaire aussi sinistre. Une de plus, mais je peux penser qu'il y en aura d'autres dans le domaine du médicament.
On va bonus-malus, pour rappeler que au Sénat, notamment, le Front de Gauche avait voté contre lorsque la loi a été présentée. Alors, les socialistes, un certain nombre de socialistes de mauvaise foi ont dit, mais c'est scandaleux, voilà que le Front de Gauche, la gauche, les communistes, tout ça, ils votent contre une mesure qui va dans l'intérêt des plus faibles, etc., et votent avec la droite. Bon, effectivement, on a bien compris, et tu as rappelé la genèse de cette situation qui effectivement condamnait ce bonus comme quelque chose qui n'était pas du tout une opération favorable au plus mal logé.
Voilà, ben, on arrive bientôt au terme du journal. Il y a peu de culturel, c'est les vacances à Lyon la semaine prochaine, mais on a l'impression que le culturel est déjà parti une semaine avant. Comme je disais, il y aura quand même Guy Denis le 18 et le 19, et puis à l'ENM aussi, promenade au pays des musiques scandinaves, poésie et musique scandinave. C'est à l'ENM mercredi et jeudi à 20h, donc... L'ENM à Villeurbanne, la salle Antoine Duhamel, 46 cours de la République, comme d'habitude.
Et puis, il faut dire simplement une parenthèse, il faut dire que les subventions sont réduites, et à Lyon sans doute comme ailleurs, les subventions aux petites compagnies notamment qui faisaient un peu cette richesse de la représentation culturelle à Lyon. À Lyon et dans toute la France, oui.
Néanmoins, ce dimanche, donc 21 avril, rue Fernand Rey, donc à 10 mètres de la radio à peine, et même dans la radio, puisqu'il y a cette manifestation, la rue de la sérigraphie. La rue Fernand Rey va devenir pour un jour la rue de la sérigraphie. Il y aura 3 ateliers sérigraphiques en exercice, on va dire. Et dans le local d'entrée de la radio, une projection sera faite à côté du paradis de Christina Firmino, un documentaire. Donc tout ça, ça se passe entre 14h et 20h. Si j'ai bien compris, oui, vous pouvez apporter vos t-shirts et pour les imprimer, peut-être avec des dessins. Enfin, il y a des ateliers enfants, il y a des ateliers dessins, il y a un atelier pochoir, il y a un atelier de sérigraphie, il y a un atelier carrousel, et puis des stands produits sérigraphiques et une exposition.
Qui est le maître d'œuvre de cette opération?
C'est Papy Art. Enfin, il n'est sûrement pas tout seul, mais c'est Papy Art.
Ah oui.
Donc, dimanche de 10h à 22h, rue Fernand Rey, à Lyon. S'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, ce sera forcément un moment agréable. Voilà, Scanner Info se termine, il est 20h, il sera rediffusé demain matin comme à notre habitude. Vous pourrez le réentendre sur Internet, ad vitam aeternam, à partir normalement de ce soir. Et je vous invite à ne pas quitter l'antenne de Radio Canut.